Le oui a besoin du débat pour gagner.
Mais le seul truc qui t'intéresse, c'est toi, toi et toi, tes études, ta carrière, ton poste au ministère, la con.
Nous sommes une démocratie, c'est le peuple qui l'a décidé.
Attendez, c'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.
Be you, be proud of you, because you can be...
Place publique, l'émission politique de Radio Campus Paris.
Do what we want.
Garantie sans candidat, mais avec des invités qui ont des idées.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors on va tous vivre ensemble, puisque c'est ça qu'ils veulent. Allez, donnez l'exemple.
Mes chers collègues, la séance est suspendue.
On nous appelle la génération Y, la génération précaire ou sacrifiée. Nous avons entre 18 et 30, voire 35 ans. Nous avons grandi avec les contre-coups sociaux et humains de la crise du capitalisme financier. Le réchauffement climatique est également une épée de Damoclès au-dessus de notre avenir. Nous sommes la génération Bataclan et Nuit Debout. Non, effectivement, les jeunes et moins jeunes d'ailleurs debout de la place de la République n'ont pas changé le monde. Ils sont tout de même la démonstration spectaculaire d'une jeunesse à la recherche de nouvelles formes d'engagement citoyen et politique. Il y a bientôt 5 ans, certains d'entre nous fêtaient, ivres d'espérance ou ivres tout court, place de la Bastille, la victoire de celui qui voulait faire de nous sa priorité. 5 ans plus tard, force est de constater, taux d'abstention et de chômage des jeunes à l'appui, nous ne sommes que des illusions. Une jeunesse désillusionnée, certes, mais résiliente et optimiste. Ce sont en tout cas les conclusions de l'enquête du mouvement Génération Cobaye, publiée en 2016. 82% des jeunes se déclarent heureux. Heureux mais insatisfaits de la société. Génération équilibriste en somme, composée de jeunes qui veulent croire et surtout agir pour l'avenir, dans un monde toujours plus incertain et inquiétant où Donald Trump est l'homme le plus puissant du monde.
J'ai un cœur comme le vôtre qui bat à sa cadence et qui est le mien.
Place publique, un vendredi par mois sur Radio Campus Paris.
Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Place publique. En 2012 au Bourget, François Hollande, le candidat, disait qu'il souhaitait être jugé sur un seul objectif. Est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012 ? Et bien comme le temps passe vite, nous sommes en 2017, ça tombe bien, et il est donc venu le temps des bilans. Mais plus que de dresser le bilan du quinquennat hollandiste sur la jeunesse, le fait est qu'il ne soit pas candidat à sa réélection est d'ailleurs un petit indice sur la réussite de cet objectif. Nous, ce soir, on avait surtout envie de se demander qui sont les jeunes en 2017, à quels défis doivent-ils faire face et quelles sont leurs aspirations à 3 mois des élections présidentielles. Et pour en parler avec nous ce soir, Sandrine Charnoz, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes vice-présidente de la mission locale de Paris et membre du bureau. Non, vous êtes bureau, membre du bureau, par contre, de l'Union nationale des missions locales. Il y a beaucoup de choses.
C'est exact.
Avec nous également Sandrine Gras. Donc, vous êtes. Bonsoir, Sandrine.
Bonsoir.
Alors, vous êtes directrice en charge de la communication du financement innovant de Génération Cobaye.
Oui, beaucoup de choses aussi.
Beaucoup de choses. Génération Cobaye, c'est le mouvement des jeunes engagés pour le bien-être de toutes et de tous. Et enfin, avec nous, Vincent Laurent.
Bonjour.
Bonsoir, vous êtes travailleur indépendant, militant à Génération Précaire, le collectif des jeunes masqués qui militent pour la protection des stagiaires.
Exact, et des volontaires en service civique aussi.
Et des volontaires en service civique. Alors je vais le préciser, ce soir, vous parlez au nom de vos associations et de vos institutions. Peut-être que vous avez des mandats, des engagements politiques, voilà. Ce soir, vous représentez vos associations et vos institutions, voilà. Avec nous également Léa.
Bonsoir.
Bonsoir Léa. Alors, je précise que vous devez partager un micro suite à un problème technique. Léa, tu es la spécialiste jeunesse de la rédaction.
Ah ouais, carrément.
Complètement. Alors, ma première question, c'est un peu Pierre Bourdieu qui me l'a inspiré. Pierre Bourdieu disait que la jeunesse, ce n'est qu'un nom. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, le sociologue Pierre Bourdieu, la jeunesse, ce n'est qu'un nom. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est qu'un terme, c'est qu'un nom. Ça ne représente, au fond, pas grand-chose, être jeune. Vous n'avez pas l'air inspiré par la question. Ah, le beat de la première question. Merci Pierre Bourdieu.
Vincent peut-être.
Vincent Laurent.
Disons que la jeunesse cache différentes réalités. Et souvent, les jeunes sont cantonnés à être interpellés qu'en tant que jeunes. Mais quand on a 18 ans, on est adulte. On a le droit de voter. On a le droit d'être élu et on a le droit d'avoir des mandats associatifs, même un peu avant d'ailleurs. Surtout, on peut travailler, déjà à partir de l'âge de 16 ans. Donc, on est déjà des adultes et encore plus avec notre génération qui avons vécu, on va dire, une certaine forme de précarité, on a vécu des difficultés que n'ont pas vécu nos parents, donc la génération des baby boomers. Mmh. Et donc, on est encore peut-être même plus adulte parce qu'on a été confronté, en tout cas, une bonne partie de la jeunesse a été plus adulte en ayant été confronté à des problèmes financiers, de logement, d'accès au travail, d'accès au monde du travail.
Plus conscient qu'on est dans un âge intermédiaire, quoi. On est en train de construire les choses et que c'est dur de construire tout ça.
Voilà, et que surtout, on nous laisse pas la place et qu'on doit se battre encore plus que la génération précédente.
Sandrine Gras.
Oui, je suis d'accord avec ça et surtout avec le fait qu'il y ait du coup des jeunes complètement différents. Donc la jeunesse, c'est très large et du coup, c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. Et en même temps, il y a quand même des... Du coup, enfin, pas des chocs de génération, mais du coup, les générations différentes partagent des choses différentes. Et il y a des choses que partagent les jeunes de 18 à 35 ans actuellement, notamment des valeurs.
Enfin, vous êtes très large, la génération cobaye, c'est même un peu rassurant. On est jeune jusqu'à 35 ans.
Oui, il y en a plein qui nous disent ça, mais il y a aussi des gens de 36 ans qui nous disent « Ah, du coup, je suis plus jeune
enfin, ». 18-35 ans, du coup, c'est l'INSEE qui détermine cette catégorie-là, c'est bien
oui,
ça?
Oui, c'est ça, c'est la catégorie des jeunes définie par l'INSEE. Du coup, on n'a pas choisi, mais en même temps, tout le monde le dit aussi, la jeunesse, c'est une affaire, ça se passe dans la tête. Donc il y a un petit peu de ça aussi.
C'est marrant que tu parles de l'INSEE, parce que sociologiquement, c'est très récent qu'on s'intéresse à la jeunesse en tant que groupe. C'est depuis le XXe siècle, c'est assez récent. Et c'est pile poil au moment de l'émergence de l'individualisme. En soi, c'est pas un peu ça, la jeunesse, c'est penser l'être dans ses différentes phases, plus que de penser collectif.
Elles sont difficiles, les questions.
Ah, pardon. Alors, c'est le CAPES sociologie. Troisième question. Non, mais pas du tout. Mais c'est peut-être un peu compliqué, je pense, un exercice compliqué, mais c'est de définir en soi la jeunesse. Et est-ce que ça vaut le coup de faire en soi une émission complète sur la jeunesse?
Oui, je pense que ça vaut le coup parce que, enfin, c'est marrant que tu dises qu'on s'y intéresse depuis récemment parce que j'ai l'impression qu'on s'y intéresse sans s'y intéresser. Donc oui, c'est intéressant de faire une émission sur la jeunesse parce que j'ai un peu l'impression que c'est la génération que les générations plus âgées essaient de décortiquer sans vraiment la comprendre parce que si les choses s'accélèrent beaucoup et donc forcément, donc il y a des fractures qui n'existaient pas avant. Et donc oui, elles travaillent et elles ont le droit de vote, ces générations, donc c'est aussi pour ça qu'on s'y intéresse. Et pour autant, dans les faits, on se rend compte qu'il y a peu de choses qui sont faites pour elles.
Sandrine Charneuse.
Pour moi, il n'y a pas une jeunesse, mais plusieurs jeunesses. Et
la question suivante.
La volonté de vouloir en parler de manière uniforme et peut-être pour l'anonymiser. Très souvent, pour la globaliser, alors qu'en fait, moi je pense qu'il y a plusieurs types de jeunesse et que c'est important de les regarder chacune. Pour moi, être jeune, c'est surtout être tourné vers l'avenir et savoir que voilà, on a de nombreuses années devant soi. Et peut-être que côté adulte, on se pose la question de la jeunesse, peut-être parce qu'on culpabilise. On culpabilise parce que l'on sait que cette génération, ces générations qui arrivent, ont vraiment du mal à s'insérer socialement et professionnellement. Et c'est un peu notre responsabilité. Notre responsabilité, peut-être parce que nous avons eu plus de facilité, mais peut-être parce que le monde qu'on est en train de construire ne leur permettra pas demain de s'insérer correctement. En tout cas, l'émission locale, c'est Schwartz, c'est le rapport Schwartz, c'est les années 80, c'est les premières années où il y a eu du chômage de masse pour les jeunes et où on s'est inquiété. Et c'est à ce moment-là que ces missions locales, qui sont des associations ou des groupements d'intérêt public, se sont mis en place pour accompagner les jeunes. Mais j'en dirai peut-être un mot plus tard, voilà. Mais clairement, plusieurs jeunesses et surtout l'objectif de ne pas les mettre dans des cases, et bien de les prendre comme individus et comme avenir.
Parfaite transition avec ma question. Vincent, Laurent, il n'y a pas plus, au fond, de points communs entre un quarantenaire de Neuilly et un jeune du 16e qu'entre un jeune du 16e et un jeune de Clichy-sous-Bois, dans le vécu, dans le mode de vie, dans les habitudes, dans, est-ce qu'on peut vraiment penser jeunesse, avoir une politique de jeunesse?
Non, on peut avoir des politiques de territoire qui sont adaptées à des territoires, qui sont adaptées à des réalités différentes. Quand on parle des quartiers populaires, on parle de réalités différentes, de celles ou dans les quartiers plutôt aisés, ça va être autre chose, on va travailler sur autre chose. Mais on peut dire, là, en termes de politique publique, il n'y a pas vraiment de lien entre la jeunesse. Après,
c'est-à-dire ?
Bah, disons, on ne va pas agir de la même façon. On devrait mettre beaucoup plus de moyens dans les quartiers populaires, par exemple.
Ouais.
Et aller, repêcher tous ces jeunes qu'on a mis sur, sur le bas-côté à l'école, parce qu'ils ont été décrocheurs ou parce que les profs ne sont pas assez... n'ont pas eu assez d'attention pour eux, ou que leur cadre familial...
en dehors du système dont on parle...
Ouais, enfin en dehors du système, en tout cas, qui n'ont pas toutes les... qui n'ont pas exactement la même chance que ceux qui sont dans les quartiers aisés. Et donc, c'est là qu'il faut remettre, on va dire, plus de moyens, plus d'attention aussi, mais plus de moyens financiers. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Ils sont toujours délaissés, et c'est tous les 5 ans qu'on redébat de ces questions-là, qu'on débat de la jeunesse, qu'on redébat des quartiers.
Plus de politique territoriale, plus que des politiques de jeunesse.
Oui, voilà. Exactement. C'est, selon les réalités, on va pas agir. Selon la réalité de terrain d'un territoire, on va pas agir de la même façon.
Sandrine Gras, pour vous, il y a qu'une seule jeunesse ? Plusieurs jeunesses ?
Non, il y a plusieurs jeunesses et je trouve que c'est réducteur et trop facile de dire les jeunes. Et c'est même, c'est marrant, mais du coup je rebondis un petit peu, d'opposer les adultes aux jeunes. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que on est adulte à partir de 18 ans en effet. Et certains jeunes rencontrent les mêmes problèmes, notamment de chômage. Oui, il y a des gros problèmes chez les jeunes, mais il y a aussi des personnes en fin de carrière qui sont au chômage et qui du coup, ont la même problématique. Donc je suis d'accord avec le côté territoire et tout ce qui peut être fait dans des quartiers, ça s'appliquera à tous les résidents des quartiers. Donc oui, c'est réducteur et trop facile.
Oui, et puis Vincent, vous disiez que finalement, la jeunesse est peut-être adulte plutôt que les anciens, on va dire. D'ailleurs, et paradoxalement, la carte jeune, par exemple, s'étend encore plus longtemps. Donc, on est à la fois peut-être plus adulte que nos aînés, et en même temps, on est jeune plus longtemps.
On est des adultes pauvres, en fait.
C'est ça.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Exactement, en fait. On est, on va dire, entre guillemets, la jeunesse d'aujourd'hui, et sont les adultes pauvres. En tout cas, pour une bonne partie. Quand on regarde le chômage des jeunes, ça se confirme quand on regarde ceux qui sont obligés pour subvenir à leurs besoins, de faire livreur en vélo ou chauffeur VTC et de faire plus de 10 heures par jour pour avoir quelques dizaines ou centaines d'euros. C'est pas simple. Nous sommes des adultes pauvres, alors qu'auparavant, à 18 ans, on avait un métier et puis on avait une situation beaucoup plus tôt. Et on pouvait penser à l'avenir beaucoup plus tôt. Nous, on pense à l'avenir dès lors qu'on a un CDI, c'est-à-dire à 28 ans.
Et finalement, est-ce que cette définition justement de l'autonomie financière, c'était pas celle de l'adultat pour nos aînés ?
Si, c'est ça, il y a le côté,
Sandrine Gras.
Oui, pardon. Il y a le côté être adulte, c'est avoir un travail, être autonome financièrement, un logement, voir ensuite une vie de couple, des enfants, etc. Sauf que c'est une définition qui n'est plus du tout valable aujourd'hui.
Qui est très liée au travail aussi.
Qui est très liée au travail, mais aussi, du coup, l'installation, la vie de couple, ça ne se passe plus du tout comme ça aujourd'hui. Donc, il faut replacer les choses dans leur contexte. Ça a évolué et c'est une vision... qui n'est pas adapté. Donc on ne peut pas calquer les réflexions, je pense, qui existaient avant sur les jeunes d'aujourd'hui.
Sandrine Tchernoz ?
Pour moi, je pense que les inégalités, elles se nichent partout. Et c'est plutôt ça que j'ai envie de dénoncer. Je pense que quand on vit dans une chambre de bonne insalubre, même dans un arrondissement ou dans une ville ou un quartier correct, on reste quand même en difficulté. C'est plutôt le côté inégalité. Et moi, ce que je voudrais souligner, c'est que je pense que la génération... Alors, les missions locales interviennent pour les 16-25 ans. Donc, on ne va pas aussi loin que l'acception large actuellement justement de l'INSEE. Donc les 16-25 ans, moi ce que je trouve inadmissible, c'est la difficulté à s'insérer socialement et professionnellement. Donc oui, il y a des gens plus âgés qui sont touchés par le chômage, mais au moins ils ont connu un premier emploi. Moi, ce qui me frappe de manière très forte, c'est le fait de ne pas avoir de première chance, de seconde chance pour certains. Et c'est là-dessus que nous travaillons en mission locale. Il faut que vous sachiez que chaque année, il y a 1,5 million de 16-25 ans, donc soit à peu près 10% de la classe d'âge, qui frappent à la porte de la mission locale et qui viennent de partout, avec bien entendu de très grosses inégalités dans les quartiers politiques de la ville et les quartiers populaires où là, tout se concentre.
Et après la pause musicale, on va essayer de voir et de comprendre ce que vous leur proposez. Soir du Campus Paris.
Win the yes, need the no to win.
Place publique, l'émission politique sans langue de bois de Radio Campus Paris.
Again the no.
Vous êtes, on est de retour dans Place publique pour parler jeunesse. Et avant la pause musicale, Sandrine Charnos, qui représente l'émission locale, nous a introduit le sujet de l'emploi. Alors, c'est un sujet qui a un peu, qui a quand même été très, très traité pendant le quinquennat, avec plusieurs mesures, dont l'emploi d'avenir. Ça a concerné, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est possible, 150 000 jeunes. C'est bien ça, sur tout le territoire.
On est à 250 000.
250 000 aujourd'hui. Oui. Et quel est le bilan? de par exemple de ces emplois jeunes de François Hollande?
Alors, ce dispositif est un dispositif qu'il faut souligner. Pourquoi ? Il a trois qualités, et moi je tiens à les mettre en avant. Il a une première qualité, c'est que pour la première fois, un gouvernement a créé un dispositif de droit commun. Les jeunes n'étaient pas à part, ils n'étaient pas différents. Ils rentraient en CDD ou en CDI dans une entreprise et c'était du droit commun.
Quelles sont les caractéristiques de ce dispositif ? C'est quoi un emploi d'avenir ?
Ce dispositif, c'est l'employeur signe un contrat avec un jeune qui continue à être suivi par la mission locale pour tout ce qui est problématique connexe, mais surtout l'employeur et la mission locale assurent une formation pour que le jeune, à la fin de cette période, soit entièrement outillé, en capacité de poursuivre dans l'emploi qui a été créé, si c'est possible et si l'entreprise le garde, ou de rebondir sur autre chose. Donc c'est à la fois un emploi et une formation. C'était un dispositif qui était ouvert pour les jeunes éloignés de l'emploi.
Il y a des critères assez précis pour pouvoir en bénéficier.
Tout à fait. Il fallait ne pas avoir le bac, sauf pour les quartiers politiques de la ville. Et là, c'est un deuxième aspect positif de ce dispositif territorial, avec une prime et une reconnaissance de la discrimination que vivent les jeunes des quartiers politiques de la ville. C'est-à-dire que vous pouviez avoir un bac plus 2, donc être un peu plus diplômé que le dispositif classique, mais en habitant quartier politique de la ville, vous pouviez rentrer en emploi d'avenir. Voilà. Donc c'était un dispositif de droit commun avec une formation en parallèle et surtout une reconnaissance enfin que les jeunes des quartiers populaires sont discriminés.
Et les jeunes qui viennent toquer aux missions locales sont intéressés par ce genre de dispositif ?
Oui, alors après la question n'est pas forcément pour nous de les mettre tout de suite dans une case, et d'ailleurs il y a un mouvement qui s'appelle Arrêtez de nous mettre dans des cases, qui est issu des jeunes des missions locales, et il faut l'entendre. Quand un jeune vient frapper à la porte de la mission locale, il rencontre un conseiller en insertion sociale et professionnelle, et j'insiste beaucoup sur le social. La finalité de la mission locale, c'est certes l'emploi, mais c'est aussi donner l'ensemble des outils qui feront que demain, le jeune, il sera complètement autonome. Nous, ce qu'on vise, c'est l'autonomie et l'ouvrir les possibles. Et donc, il y a un diagnostic et un travail et on essaie de regarder ce qui conviendra le mieux aux jeunes. Alors, c'est vrai que les emplois d'avenir avaient une caractéristique forte, c'est que le jeune était rémunéré. Et donc, on peut le sécuriser.
Faiblement,
et on peut
préciser quand même, c'est le SMIC horaire en général.
C'est le SMIC horaire, mais c'est bien mieux que tous les autres dispositifs que nous avons en mission locale. Donc pour nous, par rapport à ce public qui est très éloigné de l'emploi, c'était plus intéressant. Avec un emploi d'avenir, vous pouvez rentrer dans un foyer. On peut vous accompagner sur une solution d'hébergement. Ce qu'on ne peut pas faire pour les apprentis jeunes. Les apprentis jeunes, ils ne peuvent pas rentrer en foyer. Un jeune sur deux à Paris est en rupture familiale. Donc il est sur des plans connexes, chez des amis, dans la famille. Donc le côté accès au logement est extrêmement important. Et pour accéder au logement, il faut un revenu. Et encore une fois, tous les dispositifs ne le permettent pas. Donc c'est vraiment une insertion complète que nous essayons de mener.
Vincent Laurent, c'est suffisant tout ça, les emplois d'avenir?
C'est suffisant peut-être pour en partie pour les jeunes qui en ont le plus besoin. Après, c'est pas une idée nouvelle. C'est un recyclage amélioré, on va dire un tout petit peu amélioré des emplois jeunes que personne n'a connu autour de la table.
De Lionel Jospin,
donc il y a quand même 15 ans. Un peu plus de...
Ah, si. Jean-Louis Chardin, on précise que si.
Moi, je me rappelle parce que dans mon école, il y avait une jeune qui était en emploi jeune et on le savait tous.
La particularité, et nous, à Génération Précaire, on a 10 ans, enfin même 11 ans. On peut regarder la situation qu'il y avait en 2005. Donc un peu juste après la gauche au pouvoir, et la situation qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on a vu émerger, c'est une multiplication des statuts précaires du travail. C'est-à-dire que de plus en plus, les jeunes sont rentrés dès la fin des études, voire quand ils n'ont pas fait d'études, dès qu'ils sont sortis de l'école, dans un sas de précarité qui s'est, année après année, endurci, renforcé. qui est devenu le plus difficile à quitter. Au départ, ce qu'on avait remarqué, c'était effectivement le stage qu'on avait bien identifié, qu'on avait bien
Votre fer de lance, le stage.
C'est fer de lance parce que c'était symptomatique. On est quand même repéré à l'époque 600 000. En 2012, c'était 1,5 million ou 1,2 million. Et donc, ça avait quand même doublé. C'était un phénomène qui était énorme et c'était caractéristique de tous les statuts précaires qui existaient. Donc, on a vu ce phénomène s'amplifier, complètement dérégulé. Et donc, on a voulu encadrer le plus vite possible. Ce qu'on a réussi à faire après 9 ans.
Il y a des choses qui ont été faites.
Mais bien parce que...
L'encadrement des stages, il faut qu'ils soient intégrés à un cursus.
Si on avait attendu des politiques qui fassent quelque chose, ils n'auraient rien fait.
Donc c'est vous qui avez poussé
les... Mais très, très clairement, c'est-à-dire que quand la jeunesse se prend en main, soit en tout cas sur cette question-là, sur la question des stages, si Génération Précaire n'avait pas été créée en 2005, il n'y aurait pas eu d'encadrement des stages. Et on aurait laissé la situation perdurer encore aujourd'hui. Donc on a dû vraiment pousser la porte, mettre le pied dans la porte dès le départ, discuter avec des majorités de droite ou de gauche, et pousser avec vraiment... C'est là qu'on a une attitude adulte, quand on en parle d'analyse transactionnelle, c'est quand il y a parents, enfants, adultes, on parlait d'adulte à adulte dans les ministères, et on avait des arguments, une expertise qu'on avait construit sur des chiffres réels de la situation de l'emploi, de l'insertion et des stages en France, et donc on est arrivé avec des arguments très forts, et on a réussi à intéresser le politique, à intéresser les partenaires sociaux, à intéresser le patronat, à intéresser tout le monde, et que maintenant, personne ne peut dire il faut déréguler les stages. Tout le monde est d'accord.
Pour préciser aux auditeurs qui ne vous connaissent pas, grâce, entre autres, à des happenings où vous débarquiez, voilà. Je pense à...
On allait, par exemple, chez Darty, il y a 2 ans.
Une start-up à la mode, mais qui fonctionnait grâce à des stagiaires.
Voilà, ils avaient 36% de stagiaires pour 100 personnes d'effectifs, admis d'ailleurs par le DRH de la start-up à l'époque, et maintenant on espère qu'ils respectent la loi. Galerie Lafayette, on est allé dans tout un tas de secteurs, ça irriguait tout un tas de secteurs. Les stagiaires, on appelle ça, et même une armée de stagiaires qui irriguait tout. Et ensuite, on a vu d'autres statuts arriver. 2009, c'est la création de l'auto-entrepreneuriat.
Juste pour revenir sur les stages, est-ce qu'on peut considérer que cette loi est appliquée? Est-ce que les entreprises sont sanctionnées?
Donc c'est un plafonnement du nombre de stagiaires à 15%.
Oui, je vais rappeler un peu certaines choses. Il y a un quota de stagiaires. On ne peut pas dépasser 15% dans les entreprises de plus de 20 salariés et 3 stagiaires dans les entreprises de moins de 20. Il y a des sanctions qui sont prévues, 2 à 4 000 euros selon l'abus. Il y a une responsabilisation de la part de l'entreprise, de la part de l'université, de la part de l'étudiant. Les stages hors cursus sont interdits. Et plein d'autres choses, des droits, une augmentation de la gratification de stage, etc. Donc il y a quand même plein de choses qu'on a écrites, qu'on a promues, dont on a fait la promotion au Parlement, dans les ministères, dès 2012. En juillet, on avait rencontré le Premier ministre et à la fin, on était... là, avec d'autres organisations, à essayer d'écrire les décrets à la fin pour que ce soit complet et que tout soit appliqué rapidement, ce qui a été le cas. Donc, on a mis la pression jusqu'au bout. On a fait la même chose sur le service civique, où on avait identifié le même problème à une moindre mesure, parce qu'il y avait moins de services civiques, mais on voyait la distinction emploi-service civique qui était infime, très floue. Donc, on a voulu vraiment distinguer...
C'était de l'emploi déguisé.
C'était de l'emploi déguisé dans le secteur associatif, maintenant qui a été étendu à d'autres, mais au moins qui est encadré. Et puis, on a vu en 2009, là, c'est le nouveau sujet, et d'ailleurs, on en parle encore en 2017, certains candidats présidentiels en parlent, c'est l'auto-entrepreneuriat, c'est le travail indépendant. C'est ce que je vis aujourd'hui, ma reconversion professionnelle. J'ai quitté le salariat il y a 2 ans et je suis devenu salarié-entrepreneur dans une coopérative d'activité et d'emploi. Mais je suis travailleur indépendant et ce n'est pas simple de vivre avec pas beaucoup. Quand on développe une activité, c'est long à mettre en place. Et donc, on a besoin d'un soutien de l'État. On a besoin aussi de changer de posture.
Vincent Laurent, j'ai l'impression que vous dites, dès qu'on encadre quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui sort et qui permet d'être aussi flexible, d'utiliser les jeunes, de les jeter, mais avec... le tampon service civique, entrepreneuriat.
Ce qu'on espère, c'est qu'il n'y aura pas de nouveaux dispositifs en direction des jeunes. S'il vous plaît, arrêtez l'hémorragie. Ça fait 30 ans qu'on nous bassine de solutions pour les jeunes, de contrats pour les jeunes. Au départ, c'était CDD, ensuite l'intérim.
On a fêté les 10 ans du CPE.
Des 10 ans du CPE.
Il n'a évidemment pas été mis en place.
Le CDD, l'intérim, tous les contrats précaires, c'est nous qui les avons expérimentés. Toutes les générations de 18 à 35 ans depuis les années 80 ont expérimenté les contrats précaires.
Donc pour vous, il ne faut pas de contrat générationnel.
Non. D'ailleurs, les contrats de génération n'ont pas marché. Et il faut arrêter cette hémorragie de créer des statuts précaires. Ils sont encadrés. Par contre, il faut un socle commun de droits sociaux qu'on acquiert tout au long de sa vie, dès lors qu'on a eu une activité de travail. Et ça, c'est le compte personnel d'activité auquel on a bossé pour l'instant, qui est un embryon et qui doit être absolument exploité et enrichi dans les prochaines années.
Sandrine Charnoz, lorsque le gouvernement pénalise les entreprises qui ont recours au CDD et qu'à côté, on apprend qu'il n'y a jamais eu autant de CDD signés en 2016, il est où le problème? Il y a un problème.
Le problème, c'est notre économie. Il faut quand même être lucide. On est en crise depuis 2008. Et comme les jeunes sont souvent la variable d'ajustement, c'est eux qui en payent le prix fort. Voilà. Et la mission locale n'a pas vocation. Hein. On est aussi, nous, parfois en rapport de force avec le gouvernement ou avec les collectivités sur nos budgets, sur les dispositifs. Nous essayons de faire au mieux dans le panel qui nous est proposé pour essayer de donner une opportunité. Et vraiment, la question à laquelle on est souvent confronté, c'est la première expérience. On est sur le cercle vicieux de l'employeur qui veut le mouton à cinq pattes de manière systématique. Et c'est bien ça que nous essayons de travailler et d'accompagner.
Mais le mot de la fin, c'est pas l'ultime argument, c'est pas juste qu'en fait, le chômage des jeunes a augmenté de 4 points entre 2012 et 2017, il est passé de 22 à 26%, que ce gouvernement a, pour la plupart de ces mesures, donné plus de marge de manœuvre aux entreprises, on pense au CICE, à la loi travail, et quand le CDD, c'est l'exemple parfait, quand on donne des marges de manœuvre aux entreprises, c'est pas toujours respecté, il n'y a pas toujours des contreparties. Qu'est-ce que vous en pensez, Sandrine Gras, de ce bilan que je viens de dresser, qui est peut-être un peu...
qui est un peu sombre, mais en même temps, c'est pas une surprise. Ça rejoint ce que disait Vincent. Je trouve que la multiplication de ces statuts précaires et ces bilans qui sont noirs, ça rejoint certains des chiffres de l'enquête Que du Bonheur. En fait, les jeunes savent qu'ils sont confrontés à tous ces trucs qui sont injustes et qui sont les pires par rapport aux autres générations. Et en fait, ça les empêche pas, d'une part, d'être heureux, parce qu'ils ont bien compris qu'en fait, depuis les années 80, c'est la même chose, c'est toujours eux qui subissent. Donc, au bout d'un moment, faut quand même vivre. Et je pense que c'est aussi grâce à ça qu'ils ont eu le recul nécessaire justement sur l'économie, sur la vision du travail actuel, qui leur permet d'avoir des exigences différentes, une vision du travail moins hiérarchisée. Ils cherchent pas forcément, même pas du tout, le salaire mirobolant. Ils veulent de quoi vivre, ce qui
ils
me paraît normal.
Ils veulent pas être milliardaires. C'est même Macron qui va être déchu.
Eh bien, désolé, ce n'est pas ce qui intéresse la jeunesse française. Et là, je parle au nom de la jeunesse française, puisque les résultats sont représentatifs. Donc non.
Ils veulent ni argent, ni pouvoir.
Ni argent, ni pouvoir. Ils veulent une situation décente, ce qui me paraît normal.
Les merles moqueurs, les belles au rond, la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. My hand in your hand, du soleil au cœur.
Bien mieux de merle à mon cœur, mais il est bien court, le temps des cerises, pendant le corail, qu'on cueille en rêvant.
C'était Ma Hand in Your Hand d'Octave Noir sur Radio Campus Paris.
J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien.
Place publique, un vendredi par mois sur Radio Campus Paris.
Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Vous écoutez Place publique, l'émission politique de Radio Campus Paris. Et on est de retour pour parler jeunesse avec Valentin. Salut Valentin.
Bonsoir.
Toi, tu vas nous parler du vote des jeunes.
Exact.
Alors, François Hollande en avait fait sa priorité lors de sa campagne présidentielle de 2012. Il en avait fait son arme électorale pour son élection. Et aujourd'hui, le fossé entre le président de la République, la majorité socialiste et les jeunes français est désormais béante. Les grandes manifestations des jeunes français contre la loi travail en 2016 ont été l'entérinement de ce divorce. Et cela aura probablement des conséquences pour les élections présidentielles de 2017. Alors Valentin, quel constat pourrions-nous faire sur la situation politique des jeunes français après 5 ans de socialisme ? Enfin, de socialisme.
Eh bien, le premier constat qui pourrait être levé, c'est que les jeunes français n'ont pas retrouvé le goût de la politique au sens traditionnel. En effet, enquête après enquête, on voit que cette tranche de la population se méfie de la politique, comme l'illustre le sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info, dévoilé le 16 décembre, où un tiers des jeunes s'éloignent des partis traditionnels. Ce rejet est présent sur les réseaux sociaux et dans les élections où, selon une étude de Harris Interactive réalisée le 6 décembre 2015, 64% d'entre eux se sont abstenus lors des dernières élections régionales. Pour Céline Braconnier, directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et professeure des universités en sciences politiques, ce niveau pyramidal d'abstention peut s'expliquer par la désillusion précoce des nouveaux électeurs pour la politique. Le Conseil économique, social et environnemental a aussi fait mention de cette méfiance dans son étude sur la place des jeunes dans les territoires ruraux, où 92% des jeunes ruraux n'ont pas confiance en la politique.
Et comment cette méfiance à l'égard de la politique se résulte-t-elle dans les urnes chez les jeunes qui votent ?
Alors le vote diffère selon les conditions sociales et le niveau d'études, mais le fort taux d'abstention force tout le monde à parler de ses votes avec beaucoup de prudence. Dans l'ensemble, le parti politique qui réalise les scores les plus élevés chez les jeunes est le Front National. Alors ce n'est pas nouveau car le Marine Le Pen et son parti fait des scores élevés chez les jeunes depuis plusieurs années, et plus particulièrement chez les jeunes de classe populaire dans les milieux périurbains. Pour faire court, on pourrait dire que le croquant standard type qui vote Front National est un jeune homme blanc de classe populaire. Et encore maintenant, il y a aussi les bacs plus 5 qui commencent à s'y mettre de manière notable. Ensuite, les jeunes qui se situeraient plus proches des Républicains et du Parti Socialiste. Là, il s'agirait d'une jeunesse un peu plus diplômée qui résiderait dans les agglomérations ou en proche banlieue. Après les élections présidentielles de 2017, les choix des jeunes se portent vers Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron.
Et face à cette répartition électorale des différentes jeunesses françaises, est-il possible d'en tirer quelques enseignements ?
Eh bien, Dania, comme tu viens de le dire, le premier enseignement est qu'il n'y a pas de vote jeune. Parler de jeunesse est une erreur au vu de la disparité sociale et géographique des 18-30 ans. Le deuxième enseignement est que l'on peut tirer et que les jeunes ne se distinguent plus par leur vote et se calquent sur le reste de la population. Étant donné que certains analystes parlent d'une droitisation de la société française, il serait tentant de dire que ce phénomène s'applique aussi chez les jeunes. Mais ce serait à nouveau oublier que la moitié des jeunes ne votent pas. On peut toujours réfléchir sur la nature de cette abstention. Est-ce un rejet de l'offre politique traditionnelle ou un véritable désintérêt ? Il est vrai que les mobilisations jeunes existent toujours, comme Nuit Debout, mais étant donné qu'ils rassemblent des groupes disparates, il est compliqué de tirer une véritable enseignement sociologique. De toute façon, le vote des jeunes n'épaisse pas grand-chose par rapport au vote des plus de 60 ans. La petite démographie de la population française depuis des décennies a fini par avoir des conséquences électorales. Les populations âgées votent et se déplacent massivement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un peuple dont la moyenne d'âge est de 45 ans réfléchit différemment d'un autre peuple dont la moyenne d'âge se situe aux alentours de 25 ans.
Merci Valentin. Sandrine Tchernos, ça me fait penser à quelque chose, les jeunes de milieux périurbains et ruraux qui votent pour le Front National. Est-ce que ces jeunes-là sont pris en charge, concernés par ces politiques, et est-ce que vous les rencontrez dans les missions locales ?
Alors, dans les missions locales, nous ne savons pas ce que votent les jeunes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que il y a un paradoxe à mettre en avant. C'est-à-dire que les jeunes sont abstentionnistes, mais ils continuent à s'engager. Et quand dans les missions locales, on essaie de faire des initiatives citoyennes, civiques, on a énormément de répondants. Nous avons monté un travail, par exemple, sur l'aide aux réfugiés que nous avions en région parisienne. Et les jeunes de la mission locale, qui sont pourtant des jeunes en difficulté eux-mêmes et précarisés, ont répondu présent. Donc ce sont des jeunes qui s'engagent quand on leur propose quelque chose, mais nous ne savons pas et nous ne leur demandons pas ce qu'ils vont voter. Donc oui, les missions locales sont présentes partout sur le territoire et le chômage et la difficulté concernent l'ensemble de nos territoires. Quand je vous dis 10% d'une classe d'âge, il y a effectivement une surconcentration dans les quartiers populaires, mais il y en a bien ailleurs. Et la difficulté des jeunes ruraux sans mode de transport isolé, voilà, est aussi une réalité que nous essayons de contrer et d'accompagner différemment.
Léa.
Ce constat de l'engagement chez les jeunes, c'est celui que vous avez fait aussi dans l'étude.
Oui, c'est ce qui ressort de Que du Bonheur. Déjà, je pense qu'il faut distinguer les choses. Et les jeunes qui se détournent des partis de droite et des partis de gauche, c'est absolument pas des jeunes qui se détournent de la politique. La politique n'est pas les politiciens actuels et les partis actuels. Et du coup, la politique, effectivement, tout ce qui concerne l'engagement envers les réfugiés ou plein d'autres engagements, enfin, la consommation, c'est de la politique. Donc, les jeunes sont très très intéressés par les politiques, ils sont engagés et donc il y en a 55% qui aimeraient participer à la construction du monde de demain mais qui ne savent pas comment et 28% qui s'engagent déjà pour participer à la construction du monde de demain. Donc au total ça fait 83% des 18-35 ans qui ont envie de s'engager là-dedans. C'est quand même assez fort.
Est-ce que cet engagement a des conséquences sur le travail ? Est-ce qu'on peut parler de la mutation du travail et finalement du sens qu'on peut donner
à son
travail ?
C'est une mutation de l'engagement, il y a aussi une mutation de l'emploi quelque part.
Oui, c'est ça, parce que un engagement, c'est des convictions, c'est des valeurs. Et 80% des jeunes veulent que leur travail corresponde à leurs valeurs. Donc c'est beaucoup. Et les valeurs qui sont les plus importantes pour les jeunes, c'est respect, liberté, honnêteté, bienveillance et partage. Donc si vous trouvez que ça correspond à la définition du travail actuel...
Ça, en tout cas, ça, nous, pro- ça, ça ne correspond pas au monde de l'entreprise en France actuellement. C'est clair. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je le remarque beaucoup dans mes amis qui ont été salariés. Ils se détournent de plus en plus du CDI classique, c'est-à-dire de la vie en entreprise, du salarié classique, avec un lien de subordination et une forme de management archaïque. Issu beaucoup du fordisme et du taylorisme, appliqué maintenant au service et au tertiaire. Et ils se détournent et ils se reconvertissent, se forment et deviennent travailleurs indépendants. Alors souvent, ils font le choix, la plupart du temps, ils font le choix d'être travailleurs indépendants sous statut auto-entrepreneur, ce qui est un statut très précaire, assez complexe, même si c'est facile de s'inscrire, c'est quand même très complexe de le gérer. C'est toute une ingénierie, presque. Il faut être presque formé à devenir un auto-entrepreneur. Et très peu font le choix de mutualiser le travail en se mettant en coopérative d'activité. Ce sont seulement 10 000 coopérateurs, donc salariés entrepreneurs en France, dans 300 coopératives d'activité d'emploi. Donc, mais le constat qui est celui-ci, c'est qu'ils se détournent d'une certaine forme de contractualisation du travail.
Et qui les protège d'une certaine manière aussi. Quand des jeunes se battent pour qu'il y ait plus de CDI, c'est pas un peu contradictoire ce que vous me dites ?
Non. Ce qu'ils recherchent, et ce qu'ils recherchent beaucoup, c'est de pouvoir être plus autonome dans leur travail, de pouvoir s'émanciper, de se sentir utile dans son travail. Quand on voit même des jeunes qui ont commencé leur carrière et qui le tiers du temps s'ennuient au boulot parce qu'ils comprennent pas du tout ce qu'ils font.
Le burn-out.
Alors je n'utiliserai pas ces termes parce que
c'est extrême.
Voilà.
Et puis ça vient du management.
Les formes de bullshit jobs, en fait, toutes les tâches inutiles qu'on nous met parce que il faut faire du présentiel dans les entreprises, ça n'a pas de sens. Alors, c'est ça, ce que recherchent les jeunes aujourd'hui, c'est de retrouver du sens dans leur travail.
Alors, Sandrine Chernazon, on va vers quoi alors ?
Oui, moi je voulais juste préciser deux choses en complément qui ne sont vraiment pas contradictoires. C'est que la difficulté que nous avons en mission locale, c'est d'ouvrir le champ des possibles. On s'aperçoit à quel point les jeunes que nous avons et qui franchissent la porte connaissent les quelques emplois qui sont autour d'eux. Et ils ont généralement été, en termes d'orientation, complètement déformés. C'est-à-dire que les filles vont en petite enfance, les garçons vont en électro... mécanique, et on est vraiment sur un vrai sujet, sur l'ouverture des possibles, et les missions locales travaillent sur l'ouverture des champs et leur faire connaître d'autres possibilités, d'autres métiers. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que nous nous sommes aperçus, nous avons mené une étude sur notre capacité à accompagner les jeunes des missions locales qui veulent créer leur entreprise. Et on s'est aperçu qu'il fallait qu'on travaille deux choses. La première, c'était le propre frein des missions locales, de nos conseillers, qui veulent la réussite des jeunes en sincérité et qui veulent vraiment leur donner l'autonomie et qu'ils se disent ce sera plus difficile. C'est vrai que quand vous maniez pas forcément bien la langue, bien les calculs et la situation, il faut être vraiment bon partout pour créer son entreprise. Donc nous avons ce premier frein à travailler et le deuxième, c'est permettre les outils qui les accompagnent et qui les forment et qui partent de là où ils sont et là où ils veulent, parce que vraiment quand on se lâche et on mène une expérimentation actuellement en Île-de-France, ils ont vraiment de très beaux projets et vont même beaucoup plus vite vers l'autonomie que n'irait un jeune dans un processus classique.
C'est vrai que par expérience, les conseillers en orientation des missions locales sont très pragmatiques. Voilà, ils vont vous pousser vers des voies assez sûres, mais qui parfois ne sont pas en adéquation avec vos aspirations. On peut comprendre. Alors, insérer les jeunes dans l'emploi, et il y a une réalité, il faut faire avec.
Pas tous. C'est quelque chose qui nous traverse en permanence. On se réinterroge en permanence. À chaque séminaire que nous faisons avec les salariés et les politiques, parce que le conseil d'administration, ce sont les politiques de la mission locale, on a ça entre ceux qui sont partisans vraiment de laisser les jeunes, leur laisser le temps, et puis ceux qui sont un peu plus... tourner vers des objectifs et des indicateurs. Nous avons quand même, par rapport à nos collectivités et à l'État, qui sont nos principaux financeurs, des objectifs, atteindre des objectifs qui nous sont fixés.
Sandrine Gras ?
C'est le problème des objectifs chiffrés qui du coup oublie la question de l'humain et de du sens de la passion, de l'envie. C'est effectivement il faut être capable de vivre, c'est une chose. Après il y a du coup comment est-ce qu'on vit quand tous les jours on passe 8 heures dans un endroit où on se plaît pas, où on fait des choses qui nous plaisent pas, avec des gens qui ne nous considèrent pas parce qu'on est jeune et que hiérarchiquement on est en dessous. Je pense qu'il faut vraiment
prendre de la hauteur par rapport à ça.
Et quand il y a un taux de chômage à 22-25%, il y a des réalités, quoi. On a tous envie d'être, je sais pas, de sauver le monde ou de travailler avec des animaux, mais voilà, il y a une réalité du monde du travail.
Il n'empêche que quand on demande aux jeunes ce dont ils ont, enfin, ce qui les inquiète le plus actuellement, le chômage, c'est ce qui arrive dans les dernières positions. Ce qui les inquiète le plus, c'est la dégradation de l'environnement et la montée des extrêmes en politique.
D'ailleurs, il y a 14% des jeunes diplômés de niveau bac plus 5 ou plus qui se sont réorientés.
C'est énorme.
C'est énorme, au cours de ces deux dernières années.
Oui, d'où les problèmes d'orientation.
Est-ce que c'est possible d'organiser cette réorientation, cette liberté dans le monde du travail, sans salariat, tout en protégeant les jeunes qui s'insèrent?
Alors, ça commence faire.
Ouais.
Ça commence. La réflexion est née il y a plusieurs dizaines d'années, mais en tout cas, au niveau législatif, au niveau politique, c'est la réflexion autour du compte personnel d'activité. Mm-hmm. C'est-à-dire,
pour préciser,
par compte personnel d'activité, c'est certains droits sociaux qui sont dans un compte que l'on gère soi-même. Donc, par exemple, ce qui est dedans actuellement, c'est le compte personnel de formation, anciennement le DIF. Et donc savoir combien d'heures on a et de choisir soi-même la formation qu'on veut sans aller demander à son patron qui va nous dire soit tu n'as pas droit, enfin soit tu ne peux pas faire cette formation pour telle ou telle raison. Là, la personne va avoir un pouvoir de décision sur le choix de sa formation, de comptabiliser son engagement citoyen en heures de formation. Voilà, le compte engagement citoyen, c'est une manière de valoriser aussi l'engagement. Donc ça, c'est, mais pour l'instant, c'est un embryon. On compte aussi y mettre d'autres droits sociaux, peut-être dans le futur, le chômage, la retraite, dedans, le compte épargne temps, il y a de la pénibilité qui est aussi dedans. Mm-hmm. C'est surtout pour ceux qui ont des carrières difficiles. Et donc, ce compte personnel d'activité redonne du pouvoir à l'actif et non plus simplement aux salariés, puisque dans un an, les travailleurs indépendants auront droit au compte personnel d'activité. Donc ça donne droit à l'actif de pouvoir gérer lui-même sa carrière professionnelle, mm-hmm, du début jusqu'à la fin. Et de ne pas être dépendant, soit comme salarié, soit comme travailleur indépendant, enfin surtout comme salarié, d'être dépendant de son employeur. C'est lui-même, pendant sa carrière, qui va pouvoir décider de qu'est-ce qu'il veut faire, de comment il veut, est-ce qu'il veut utiliser ses points. Et c'est ça, en fait, c'est un des outils qui peut permettre tout au long de la vie de pouvoir se former, qui est mis en place, c'est le compte personnel d'activité. Mais il faut l'enrichir, il faut l'encourager, il ne faut pas l'arrêter. Il y a une forme de consensus qui pour l'instant s'est créée sur cette question-là, mais il faut l'enrichir, il ne faut pas le stopper.
L'un des enseignements de votre étude, Sandrine Gras, c'est que les jeunes sont en quête de sens, ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire être en quête de sens et comment ça se voit sur les chiffres?
Sur les chiffres, alors du coup j'ai plus le chiffre en tête, mais en tout cas il y a une majorité de jeunes qui pensent que le travail c'est d'abord un moyen d'épanouissement personnel et pas un moyen de subsistance. Donc déjà faut, voilà, je trouve que ça replace les choses dans le bon ordre. Et puis c'est aussi du coup des jeunes qui pensent que la société est inégalitaire, qu'il n'y a pas une bonne distribution des richesses.
C'est marrant parce que cette inégalité, on la ressent dans les chiffres, rien que sur la question du bonheur. Alors, les jeunes qui sont issus de milieux favorisés sont très heureux. Ceux qui sont issus de milieux moins favorisés se le sont beaucoup moins.
Ils sont beaucoup moins heureux.
C'est très criant.
En revanche, ils sont quand même heureux. Enfin, oui. Voilà. Bon, non, mais je veux dire, voilà, ils sont pas en dépression. Ils sont quand même, c'est quand même une majorité. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont communes, mais c'est clair qu'on part pas tous, avec les mêmes chances. Et du coup, ça joue directement sur le niveau de bonheur. Pareil pour, plus le niveau d'études est élevé, plus on est heureux. Il y a aussi, quand on déclare être heureux dans son travail, on est heureux dans la vie. Et alors que je crois que c'est presque 80%, alors que juste 50% de ceux qui sont heureux. Bref, quand on est malheureux dans son travail, on n'est pas très heureux dans la
vie. C'est marrant parce qu'on y passe 35 heures, ce qui est beaucoup. Bah les jeunes aspirent à moins.
Trop.
Ils veulent passer seulement 32 heures au travail. Génération fainéant aussi.
Bah bravo de se faire la porte-parole des anciennes générations.
J'essaie d'équilibrer mon propos.
Non, ce que je voulais rajouter, c'est qu'une autre partie, une autre chose qui se voit dans les mutations du monde du travail, c'est le choix du lieu de travail.
qui est il y a le choix du statut, il y a le choix du statut qui est différent d'être indépendant, autonome, etc. Pouvoir gérer soi-même son temps de travail, sa formation et ça, etc. Mais il y a aussi le choix du lieu de travail, ce qui se développe beaucoup depuis quelques années. C'est effectivement le télétravail. Beaucoup font le choix de faire du télétravail. Trop peu font le choix, mais en tout cas, c'est une tendance, un signal faible qui montre qu'il y a une appétence pour faire du travail. Il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y avait 50-60% des Français qui voulaient travailler de chez eux, en tout cas partiellement. Il y a toute la création des espaces de coworking, des tiers-lieux qui remettent un peu qui recréent des communautés de travailleurs.
Qui dynamisent et créent du lien.
Qui recréent
des réseaux. Chandrine rapidement.
Oui, juste, moi, je voudrais quand même dire que nous, notre public, il n'est pas forcément sur ces sujets-là. Sa question, c'est le premier emploi. Les missions locales, elles accompagnent les jeunes vers le premier emploi. Et donc, le compte d'activité, c'est certes quelque chose de très bien et qu'il faut enrichir, mais ils ne peuvent pas y avoir droit parce qu'ils n'ont pas encore commencé à engranger des droits. Le côté « je m'installe et je fais du télétravail », c'est peut-être un idéal, mais un idéal auquel ils n'ont pas encore forcément pensé parce qu'ils ne le connaissent pas.
Il concerne une minorité de...
Voilà, et il faut pas oublier ces jeunes-là parce que c'est aussi une partie de la jeunesse française. Quand je dis que 1,5 million de jeunes franchissent nos portes chaque année, c'est énorme. Et je voudrais souligner deux choses.
Rapidement.
Les inégalités sont liées au diplôme. C'est-à-dire que si vous avez un diplôme ou si vous ne l'avez pas, vous avez une capacité d'insertion plus rapide. Et surtout le réseau. C'est une vraie inégalité. Si vos parents, si quelqu'un autour de vous connaît quelqu'un, vous avez encore plus de chances de pouvoir choisir, de pouvoir rebondir. Et ça, c'est aussi des choses qu'il faut que l'on travaille parce que c'est des vraies inégalités auxquelles on se heurte, nous, tous les jours. Et la mission locale, c'est le réseau pour ceux qui n'en ont pas.
On importe. Sandrine Gras, vous aurez le privilège du mot de la fin. On est à 2-3 mois des présidentielles. Est-ce que vous, en tant que jeune, vous êtes la plus jeune dans ce plateau, donc voilà. Est-ce que vous attendez quelque chose de ces élections présidentielles?
J'ai de l'espoir, c'est déjà pas mal. J'ai de l'espoir et j'attends qu'on écoute pour une fois la parole des jeunes et pas que pour les élections. Il y a des choses très fortes qui ressortent de l'étude Que du Bonheur, qui sont complètement à l'opposé de la majorité des programmes politiques qui sont proposés pour les présidentielles. Je pense qu'il est temps d'ouvrir les yeux et qu'on ne peut plus ignorer ce que disent tous les jeunes de 18 à 35 ans en France aujourd'hui.
Merci beaucoup Sandrine Gras, merci beaucoup Sandrine Charnoz et Vincent Laurent d'avoir été parmi nous ce soir. On n'a pas eu le temps de revenir sur les programmes des principaux candidats et j'ai envie de dire... Tant mieux. Le mois prochain, Place Publique parlera culture et tout de suite, je vous laisse avec l'équipe de La Souterraine sur Radio Campus Paris. De quoi allez-vous parler ce soir, La Souterraine ?
De musique en français, comme d'habitude, comme toutes les 15 jours. Et ce soir, on a une session, comme tous les 15 jours aussi, avec Rash 3 en direct.
C'est noté, on reste à notre poste.
Allez.
Merci beaucoup et bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.